Le gouvernement du Québec a adopté sous Bâillon le projet de loi 2. On l'appelle aussi la loi visant principalement à instaurer la responsabilité collective quant à l'amélioration de l'accès aux services médicaux et à assurer la continuité de la prestation de ces services. Donc, en gros, c'est la fameuse réforme sur le mode de rémunération des médecins. Mais là-dedans, ben, on inclut aussi, appelons ça, des conséquences envers les médecins qui auraient tendance à vouloir défier cette nouvelle façon de faire-là. Dans Marceau le matin, on en a parlé, entre autres, avec un médecin omnipraticien. On a discuté du dossier avec Marc Rangé également, qui est notre expert en relations syndicales. Et j'étais curieux d'avoir l'avis de quelqu'un qui collabore souvent avec des médecins dans le cadre de ses fonctions de pharmacien. C'est l'ami Jean-Philippe Bergeron qui est au bout du fil. Jean-Philippe, salut!
Salut, salut!
Ça va bien?
Ça va bien, vous?
Yes! Merci, JP. J'étais curieux de t'entendre là-dessus parce que, bon, en tant que pharmacien, t'es vraiment pas directement médecin. Par contre, tu collabores beaucoup avec les médecins. Tu dois discuter avec beaucoup de médecins aussi. C'est quoi ta vision de cette nouvelle loi-là de la Coalition Avenir Québec?
Écoute, c'est très, très complexe. Je te dirais... Je pense que toutes les intentions sont bonnes, ça, il n'y a pas de doute, là. Puis une solution parfaite, est-ce qu'il y en a? Il y en a jamais, tu sais, c'est sûr que non. Puis il y a toujours deux côtés à une médaille, hein. Mais moi, le dossier des médecins puis des négociations salariales avec les médecins, je vois ça quasiment plus comme un cube Rubik qu'une médaille. C'est-à-dire que il y a tellement, tellement de choses à prendre en considération que c'est, je veux dire. Tout le monde a une position, il y a plein de positions qui se justifient, qui s'argumentent, mais ultimement, à un moment donné, faut que quelqu'un tranche. Puis ce qui est plate, c'est qu'il y a des choses là-dedans qui ont été imposées, mais est-ce que je pense que c'est bon, est-ce que je pense que c'est mauvais, tu vas me trouver plate, je suis pas capable de me positionner de façon claire, là, tu sais.
Est-ce que toi, de ce que tu as vu passer jusqu'à maintenant de cette nouvelle loi de numéro 2-là, ça va t'affecter d'une façon ou une autre dans tes fonctions de pharmacien, dans les relations que tu vas avoir avec les médecins ou ça ne changera pas grand-chose?
Écoute, directement, ça n'a pas d'impact pour nous autres. Comme tu dis, on travaille beaucoup en collaboration avec les médecins, mais c'est vraiment du côté professionnel, tu sais, du côté traitement, choix de traitement. Fait que je te dirais, moi, en tout cas, personnellement, je me sens quand même bien, bien isolé de tout ça en tant que pharmacien. La seule chose qui m'inquiète, c'est est-ce que ça va avoir un impact là sur des départs à la retraite de certains médecins. Je pense pas que ça va être majeur. Je suis pas particulièrement inquiet, mais je me garde une petite réserve sur les impacts négatifs pour ultimement l'accessibilité, tu sais.
Dans les dernières années, la Coalition Avenir Québec a aussi travaillé pour donner un petit peu plus de pouvoir, disons-le comme ça, aux pharmaciens. Est-ce que par rapport à tout ça, tu vois une certaine continuité?
Oui, c'est vraiment de notre côté, c'est vraiment la direction que la profession prend. Puis ça, c'est vraiment intéressant parce que je pense que ça nous permet vraiment d'aider beaucoup plus en première ligne. Puis Dieu sait que c'est surtout là qu'est le problème, en tout cas, un gros morceau du goulot d'étranglement dans les soins de santé, puis l'accessibilité aux soins de santé passe par la première ligne qui est difficile d'accès. Donc les pharmaciens qui en ont pris plus, puis qui peuvent en prendre plus et qui vont en prendre plus de liberté, éviter des consultations des fois inutiles ou des consultations pour lesquelles on a la compétence là, pour gérer le cas. Je pense que c'est vraiment, vraiment un gros plus là, pour l'avenir des soins de santé. J'inclus aussi les IPS. Je trouve qu'ils font un travail vraiment, vraiment important pour la première ligne. Puis, je suis quand même positif par rapport à l'avenir global là, des soins de santé puis de l'accessibilité. Ça va toujours rester un problème, tu sais, ben un problème, un enjeu. La population est vieillissante, les gens ont besoin de traitement, on a de plus en plus de trucs qu'on traite ou qu'on traite en prévention. Ça demande beaucoup de temps au système de santé, mais je trouve que globalement, tu sais, sans me positionner concrètement sur la nouvelle loi, je trouve que globalement tout ça s'en va vers une bonne direction, avec ses inconvénients, ses irritants, évidemment, mais on dirait que je suis comme confiant pour l'avenir des soins de santé à moyen terme au Québec.
Dans le concret, parce qu'on disait la CAQ a donné dans les dernières années plus de pouvoir aux pharmaciens, dans le concret, est-ce que ça se traduit par plus de services offerts depuis quelques mois? Est-ce qu'on le voit?
Je te dirais, dans les derniers mois, il n'y a pas beaucoup d'évolution concrète. Parce que le projet de loi 67, là, qui va nous débloquer, si on peut dire ça comme ça, des conditions mineures pour lesquelles on va pouvoir, là, en tant que pharmacien, traiter, c'est pas encore mis en application. Donc, on en parle beaucoup depuis à peu près un an. Cette loi-là n'a pas été encore, là, appliquée, mais on est vraiment à l'aube, là, de voir les résultats. Puis ça va donner du concret, c'est-à-dire ça va élargir beaucoup, beaucoup les conditions qui peuvent être traitées en pharmacie et pour lesquelles on n'aura pas besoin de référer les gens à l'urgence, au sans-rendez-vous ou au médecin de famille. Fait que concrètement, le projet de loi actuel, pas de changement dans les derniers mois, mais ça s'en vient. Par contre, dans les derniers 5 ans, il y a eu le projet de loi 31, projet de loi 41, qui nous ont donné, là, puis ça, c'est effectif, puis on l'utilise dans toutes les pharmacies, là, qui nous ont donné plusieurs conditions assez strictes, mais quand même, plusieurs conditions qu'on peut maintenant traiter, pour lesquelles avant on devait référer. Je trouve que c'est une grosse amélioration, puis avec le projet de loi 67, on fait juste continuer d'élargir. Puis les critères d'admissibilité pour les gens vont être plus larges un peu. Il va y avoir moins de restrictions, là, pour les cas qu'on peut ou qu'on peut pas traiter. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Puis j'ai l'impression que ça donne un coup de main concret, c'est sur le terrain au quotidien.
Jean-Philippe Bergeron, pharmacien, je vais profiter du fait de t'avoir au bout du fil pour te jaser d'un sujet qui a été ramené, là, en grand sur la place publique dans les derniers jours par Donald Trump, le président américain, qui en a remis en fin de semaine concernant les Tylenol et les femmes enceintes. Ça avait déjà fait controverse, ça, il y a quelques semaines. Et là, il est revenu, Donald Trump, avec un post, entre autres, sur True Social, où il dit « Femmes enceintes, n'utilisez pas de Tylenol, sauf en cas d'absolue nécessité. » Puis ça, c'est entre autres ce qu'il dit dans un long post à la Donald Trump. J'imagine qu'encore une fois, il sort pas de ça d'absolument nulle part, mais est-ce que c'est avec raison de relancer l'avertissement?
Écoute, c'est avec raison. Je pense que c'est toujours bon d'être informé puis d'inciter les gens à la prudence avec les médicaments. Maintenant, la façon dont lui le présente puis que ça a été présenté, je trouve que c'est un peu comme alarmiste, là. Moi, dans le fond, la seule chose que j'aime dans son discours, c'est n'en prenez pas si ce n'est pas nécessaire. Fait que ça, c'est vrai. Je veux dire, tout médicament a un effet primaire, évidemment. C'est pour ça qu'il a été mis sur le marché. Mais il y a toujours un potentiel d'effet secondaire. Le Tylenol est extrêmement sécuritaire. C'est un produit qui a été largement étudié chez la femme enceinte, puis chez toutes les populations. Mais c'est sûr que d'en prendre plus que le nécessaire, prendre plus que la dose, ça comporte des risques. Même en respectant la dose, tu sais, il y a des risques qui existent, mais ils sont extrêmement faibles. Puis, ce qu'il faut toujours peser, puis j'y reviens souvent dans le passé quand on s'est parlé, c'est toujours la question de risque versus bénéfice. Donc, une femme enceinte qui fait de la fièvre, ça porte un risque important pour le fœtus. Donc, de contrôler la fièvre avec un produit connu sécuritaire comme le Tylenol, c'est la bonne chose à faire lorsqu'on fait de la fièvre. C'est beaucoup plus sécuritaire d'utiliser le Tylenol que de risquer de laisser perdurer la fièvre. Fait que c'est toujours une question de bien l'utiliser au bon moment avec la bonne dose. Puis, ce que j'aime pas de la sortie de Trump puis de d'autres articles, c'est que si tu le lis rapidement puis tu n'analyses pas trop, je trouve que ça l'incite un peu à la peur. Fait que d'inciter à la peur, je suis pas d'accord. Par contre, je suis tout à fait d'accord avec la méfiance, peut-être pas le bon mot, mais la prudence, tu sais, s'assurer qu'on a besoin, s'assurer que c'est le bon produit pour nous. Puis c'est pour ça que les pharmaciens sont là, sont accessibles. On peut répondre aux questions des gens, mais il faut surtout pas boycotter le Tylenol à cause de quelques risques. Puis tu sais, l'autre chose qui est difficile aussi, si on va un petit peu plus loin dans le dossier, c'est que tout ça part de certaines études qui ont démontré de certaines complications qui pensent peut-être attribuées au Tylenol. Maintenant, c'est des c'est des cas qui sont faibles en importance, mais il ne faut pas oublier aussi que la personne qui l'a utilisé, ben, généralement, elle avait une raison pour l'utiliser. Mmh. Donc, la femme enceinte fait de la fièvre, elle a un foyer infectieux, elle utilise du Tylenol. Bon, si par après, on veut regarder ce qui se passe avec le fœtus, il n'y a pas juste le Tylenol qui existe dans le dossier. Il y a le fait que la femme a fait de la fièvre, la femme avait une infection. Tu sais, fait que le lien direct de cause à effet, là, il est vraiment pas clair. Mais ce qui est clair, par exemple, c'est le lien de cause à effet de fièvre versus là, risque pour le fœtus. Fait que je pense qu'il y a, tout le temps un peu trop d'artifice puis de couleurs là-dedans. Mais pour une fois, je suis comme d'accord avec une partie du message de Trump, c'est-à-dire d'inciter à la prudence.
Est-ce qu'on a la Tylenol, puis j'ajouterais même l'Advil là-dedans, trop facile? C'est-à-dire que ça a toujours fait partie de nos vies, on l'a toujours pas loin, puis on dirait qu'à toutes les fois qu'il y a un mini quelque chose, ben oh, un Advil, Tylenol, puis mettons que j'ai une grosse soirée arrosée dans un bar sportif pour regarder un match des Blue Jays, mettons. Je reviens chez nous, puis je me dis, hey, il va prendre deux Tylenol, m'a mieux filé demain matin. On l'a-tu trop facile, ce réflexe-là, de prendre Tylenol, Advil, à tort ou à raison, un peu n'importe quand?
Ben, je pense que oui. Puis, si ce que tu m'as présenté, c'est un exemple concret, puis tu le fais à l'occasion, tu sais, je vais pas te chicaner pour ça, puis je comprends peut-être un peu des fois le réflexe facile, mais tu as raison de soulever la question, parce que ce que tu me décris là, où il y a sûrement plusieurs cas où est-ce que c'est de l'utilisation qui est basée un peu sur la banalisation du produit. Donc, puisque c'est en vente libre, souvent les gens pensent que c'est absolument sécuritaire, ça peut être pris dans n'importe quel contexte, ou des fois les gens pensent que c'est pas vraiment fort, donc ils peuvent dépasser la dose. Ah, ben, c'est juste des Tylenol, tu sais. Fait que la surutilisation, là, le réflexe d'en utiliser à toutes les sauces est peut-être quelque chose sur lequel on peut se questionner. Puis, je pense qu'il y a sûrement beaucoup de gens qui se reconnaissent là, dans ton discours. C'est pas un scandale, mais ça mérite vraiment une réflexion. Tout médicament a un potentiel d'effet secondaire, un potentiel d'interaction avec d'autres médicaments ou un potentiel d'interaction avec une condition de santé qu'on a. Par exemple, l'Advil, c'est disponible en vente libre. Il y a beaucoup d'interactions avec des médicaments ou des contre-indications. Chez des gens qui font de l'hypertension, qui ont des problèmes cardiaques. Fait que, tu sais, c'est en vente libre, mais ça reste pas banal. Puis, ça mérite toujours un arrêt puis une petite réflexion avant de l'utiliser. Attends un peu. J'en ai-tu vraiment besoin? C'est-tu vraiment le bon produit pour moi? Puis, quelle dose je vais prendre? Fait que, je trouve ça intéressant que tu le soulèves.
JP, en terminant, dans le Truth de Donald Trump, il abordait aussi la vaccination. Il invitait les parents américains à séparer les 5 doses de vaccins. Je pense qu'il parlait rougeole, vaccin, hépatite B, là, au total, je pense que ça, c'est 5 doses.
Ouais.
Pour leurs jeunes enfants, en 5 rendez-vous distincts, puis pour l'hépatite, il disait qu'il faut absolument attendre après 12 ans. Ça, il est-tu encore dans le même ordre d'idée à l'effet que, ben, en effet, ça peut être une bonne idée, mais qu'il ne faut pas utiliser la peur?
En fait, moi, ce point-là, je serais curieux, puis je vais sûrement fouiner un petit peu plus dans les prochains jours. J'ai pas vu de données à cet effet-là, donc je sais pas d'où ça vient. Est-ce que je suis un peu en retard? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'échappe? C'est pas impossible. On est dans le gros rush justement de vaccination antigrippale en ce moment. Mais ça m'a surpris. Puis je sais pas exactement d'où il sort ça, mais les données sur les vaccins combinés là sont très très rassurantes. Puis je sais pas d'où ça sort. Maintenant, faut toujours avoir l'esprit ouvert, pas se mettre d'absolu en santé, parce que nouvelles données, ça sort. Puis des données post-commercialisation, ça existe. Des nouvelles découvertes, des nouvelles percées. Fait que je me garde toujours une réserve là, sur la position complètement tranchée. Mais à première vue, ça m'a fait plus sourciller que son histoire de Tylenol, là, sur lequel il est vrai qu'il faut avoir une certaine prudence.
Jean-Philippe Bergeron, pharmacien, un gros merci. On se reparle bientôt.
Hey, merci à toi.
Salut.
Salut.
Au retour de la pause, on jase éducation parce qu'il y a quelques nouvelles intéressantes sur le dossier à matin, là, entre autres des enseignants qui quittent pas mal le réseau ou du moins changent de service scolaire, mais là, d'un chiffre, ça compte comme s'ils quittaient, mais là, on le sait pas. C'est-tu normal qu'on le sache pas? On devrait-tu le savoir? Il me semble que c'est le genre d'information dont on pourrait profiter pour améliorer notre système de santé. On nous dit aussi via Radio-Canada que pour ce qui est des employés de soutien. C'est difficile de retourner en chercher actuellement dans le réseau scolaire et pour parler de tout ça. Marc-André Smith, qui est le directeur général de l'Association québécoise du personnel de direction d'école, sera avec nous. Vous écoutez Le Point de Max à Boulevard.
Le Point de Max. Si tu vas à l'événement de réduction d'inventaire d'équipements neufs de JLD Lagu, ton concessionnaire John Deere, toi aussi, tu pourrais siffler en travaillant.
Les élections municipales ont lieu le 2 novembre. Électeurs de la Ville de Québec, trouvez où et quand voter en consultant l'outil Info-électeurs sur le site web de...